Un accident de la route dramatique. À Païta, trois personnes, dont un enfant, ont perdu la vie dans un choc frontal entre un fourgon et une voiture. La sécurité des établissements scolaires au cœur des priorités des institutions de Nouvelle-Calédonie après l'incendie criminel qui a frappé le collège de Normandie le week-end dernier. La province sud a désormais une nouvelle commissaire déléguée. Catherine Merckx a officiellement pris ses fonctions ce matin à La Foix. Une dizaine de policiers décorés par le haut-commissaire Louis Lefranc, c'était ce matin au commissariat central de Nouméa. L'accès aux droits au cœur de notre magazine citoyen ce midi. Depuis de nombreuses années, les acteurs calédoniens concernés tentent de le faciliter. Extrait à suivre dans ce journal. Bonsoir à tous, bienvenue dans Info Soir pour tout savoir de l'actualité en Nouvelle-Calédonie et dans la région Pacifique. À Païta, un nouveau drame de la route a fait trois morts ce midi, dont un enfant. Un fourgon et une voiture sont entrés en collision sur la RT1 entre la tribu de Saint-Laurent et le col de la Pirogue. Jean-François Baudin.
L'accident a eu lieu entre deux îlots routiers dans le sens Nouméa-Tontouta. Le couple à bord de la voiture est décédé sur le coup en raison de la violence du choc. La troisième victime est un enfant âgé d'environ 2 ans qui était dans le fourgon. Il a dû être désincarcéré du véhicule par les pompiers et n'a malheureusement pas survécu à ses blessures. Le fourgon transportait 4 autres personnes, 3 adultes et 1 nourrisson. Tous ont été blessés, mais leur pronostic vital n'est pas engagé et ont été évacués en direction du Medipôle. La circulation a évidemment été coupée dans les deux sens le temps de l'intervention des secours. Les gendarmes ont instauré une déviation par le littoral qui est restée en place jusqu'à 15h, heure de réouverture de la RT1 dans les deux sens. Un terrible accident donc qui porte à 24 le nombre de décès sur les routes calédoniennes depuis le début de l'année.
Plusieurs incendies ont été signalés la nuit dernière en province nord. À Koné, c'est le snack Container Café qui a été la proie des flammes la nuit dernière. Les précisions du commandant Loquet, chef de corps des sapeurs-pompiers de Koné.
À minuit et demi, nous avons été appelés pour un feu de brousse près de la concession LC Motos, automobile. Arrivé sur les lieux, l'équipe n'a pas pu localiser le feu de brousse, mais par contre, a entendu une explosion. Et ils se sont aperçus, arrivés sur les lieux, que 2 conteneurs, l'un servant d'entrepôt et l'autre servant de cuisine, étaient embrasés. Bon, ils ont demandé le renfort, dans un premier temps, du centre de secours pour un deuxième véhicule. Et par la suite, un renfort également des moyens de sécurité civile qui ont été engagés sur place. Le feu a été circonscrit très rapidement, mais les dégâts sont importants, notamment dans la structure principale, avec des équipements qui ont été fortement impactés par l'incendie. Et la structure est également en service.
Aucun blessé n'est à déplorer. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de l'incendie qui serait parti de l'intérieur de la structure au niveau des cuisines. À Pointe-d'Imier, ce sont les bureaux du secrétariat de la mairie qui ont été incendiés. L'établissement reste fermé le temps des investigations. Les services administratifs ne sont pas disponibles, le personnel n'ayant pas accès aux bureaux. Mais les autres services de la commune restent quant à eux opérationnels. Pour le moment, il n'y a pas eu d'interpellation. Et dans un communiqué, le gouvernement exprime sa profonde indignation et condamne la série d'incendies volontaires survenus ces derniers jours à Nouméa, Koné et Pointe-d'Imier. Ces actes inacceptables mettent en danger la sécurité publique et perturbent la vie de nos concitoyens. Ces actes de vandalisme criminel constituent une atteinte grave à notre tissu social et économique, peut-on lire dans ce communiqué.
RB 17h49.
Il faut renforcer la sécurité dans les établissements scolaires. C'est la conclusion à laquelle sont arrivées les institutions après l'incendie criminel qui a frappé le collège de Normandie le week-end dernier. Une visite était organisée cet après-midi au sein de l'établissement en présence de représentants de l'État, du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, de la province sud et du vice-rectorat. À 2 semaines des vacances scolaires, la sécurisation des lieux est primordiale. Un nouveau coup dur durant cette année scolaire qui aura fortement été chamboulée après les émeutes du 13 mai. Écoutez Sonia Baquès, présidente de la province sud.
Il y a plusieurs sujets. Il y a évidemment à chaque fois la gestion de l'urgence et du court terme, de savoir comment on sécurise les vacances scolaires, comment on assure la rentrée scolaire. Et puis il y a tout repenser dans le cadre de la reconstruction pour sécuriser de manière pérenne l'ensemble des structures publiques. Là, c'est le cas pour un bâtiment scolaire, mais on se pose exactement les mêmes questions sur l'ensemble de nos bâtiments publics où aujourd'hui, on se pose la question de l'évolution du PUD qui aujourd'hui interdit d'avoir des barrières de plus de 2 mètres alors qu'on a besoin parfois d'en mettre 2-3 mètres. Ça pose des questions également de coûts coûts de fonctionnement parce que aujourd'hui, parfois, la sécurité physique ne suffit pas, les caméras, les barrières ne suffisent pas et qu'il faut parfois des vigiles, de la présence humaine qui représentent des coûts exorbitants qui ne sont pas forcément finançables par les établissements et par la province.
Des réunions entre l'État, le gouvernement et les collectivités ont été entamées hier pour préparer les vacances scolaires. Parmi les points à l'ordre du jour, identifier les établissements les plus à risque pour les sécuriser et définir une coordination avec les forces de l'ordre. Mais pour Isabelle Champmoreau, vice-présidente du gouvernement en charge de l'enseignement, la situation politique instable en métropole rend difficile quelconque prévision sur le long terme.
On est quand même très inquiet par rapport à ce qui se passe en métropole, notamment parce qu'il y a un gros travail d'identification avec l'État de nos établissements prioritaires. On a des services qui ont fait des états des lieux clairs, les devis sont faits, on est prêts, on est tous prêts à commencer les travaux dans nos établissements, mais on est aussi très inquiet de ce qui se passe au niveau national sur l'éventualité d'un gouvernement qui tomberait et de financement qui serait moins facile à avoir ou à identifier.
Rappelons que le Collège de Normandie a été victime dans la nuit de vendredi à samedi dernier d'un incendie d'origine criminelle dans trois parties de l'établissement. Les forces de l'ordre ont procédé à l'interpellation de deux suspects. Un des jeunes responsables de l'incendie aurait été jugé en comparution immédiate ce matin au tribunal. Le Collège ne rouvrira pas ses portes avant ce jeudi. Actualité politique avec la réaction des députés calédoniens après que le Premier ministre Michel Barnier ait décidé de déclencher le 49-3. Il l'a décidé pour faire adopter le projet de budget de la Sécurité sociale, Elisabeth Noir.
Faute de majorité, le Premier ministre engage en effet sa responsabilité et deux motions de censure ont été déposées, l'une par le Nouveau Front Populaire, l'autre par le Rassemblement National. Les deux groupes ont la majorité pour faire tomber le gouvernement, d'autant plus que Marine Le Pen a confirmé que son groupe allait voter les deux motions mercredi. Tout le monde prédit donc la chute du gouvernement Barnier et l'on s'interroge bien sûr sur les conséquences, notamment pour la Nouvelle-Calédonie. Le territoire attendait beaucoup de la loi de finances, il attendait également de l'État qu'il fixe un cadre pour les discussions sur l'avenir. On ne nous aura rien épargné, c'est la réaction de Nicolas Metzdorf, le député de la première circonscription qui est actuellement à Paris.
Ça a des conséquences assez graves puisque c'est le gouvernement qui avait à la fois le tempo sur les discussions concernant l'avenir et à la fois sur les décisions budgétaires qui concernent la Nouvelle-Calédonie. Donc maintenant, notre responsabilité en tant que parlementaire, c'est de faire en sorte que si la motion de censure est confirmée, qu'il y ait un minimum de continuité du service de l'État. On n'avait pas besoin de ça, rien ne nous est épargné finalement dans cette mandature.
Nicolas Metzdorf dans le brouhaha de l'Assemblée nationale. Réaction également du député Emmanuel Chibaou qui est sur le territoire. Il appartient au groupe de la gauche démocrate et républicaine qui fait partie du Nouveau Front Populaire, mais il ne votera pas la censure.
Non, je n'ai pas voté la première fois lorsqu'elle était présentée par mon groupe, le Nouveau Front Populaire. La motivation, c'est ce que j'ai dit aussi à mon groupe, c'est que en Calédonie, nous, on n'a pas le temps pour ça. On a eu la dissolution qui est arrivée fin juin et on a mis pratiquement jusqu'à 3-4 mois après pour avoir un Premier ministre et répondre aux problématiques d'urgence aujourd'hui. Moi, je pense qu'on est dans cette situation d'urgence et que la Calédonie, à mon sens, ça ne doit pas être l'objet d'un instrument de politicienne dans les débats nationaux. Il faut être raisonné et espérer que la motion de censure, là, elle exprime les tensions qui sont nées de cette majorité qui était relative. Et donc, du coup, nous, on essaye de passer entre les gouttes, mais les amendements qui ont été portés au Sénat, je ne sais pas où est-ce que ça va nous mener dans la mesure où le gouvernement y tombe.
Emmanuel Chibaou qui prend donc des distances avec la position de son groupe, mais il a prévenu ses collègues.
Je pense que je suis plutôt accessible et libre de mes choix. Je l'ai expliqué à mon président de groupe, André Chassaigne, et puis aussi aux autres composants du Front Populaire qui comprennent aussi ma position et aussi du fait qu'ils ont, je pense, aussi bien pris en compte les urgences dans lesquelles notre pays il était aujourd'hui, quoi, hein, tant sur les tensions qu'il y a eu, autant que sur la nécessité du plan de relance économique.
Le député de la seconde circonscription qui estime lui aussi que la chute du gouvernement Barnier aurait ou aura des conséquences importantes pour la Calédonie.
Première conséquence directe, ça va être que le projet sur lequel on a travaillé ensemble et qu'on a porté nos amendements ne puisse pas être retenu et qu'on soit soumis du coup au budget de 2024, quoi, celui qui a été voté à N-1. Donc c'est ça le risque pour nous, en partant aussi du fait que si le gouvernement tombe aussi, on n'a plus d'interlocuteur qui puisse prendre la responsabilité financière ou politique pour poursuivre les discussions autant que le suivi du plan de relance.
Et c'est mercredi à Paris qu'aura lieu le débat sur la motion de censure. Pour être adoptée, elle doit recueillir la majorité absolue à l'Assemblée nationale, soit 289 voix. Ensemble, le Nouveau Front Populaire et le Rassemblement National totalisent 316 députés.
Et revenons sur l'incendie qui est survenu à Point-d'Imier. Jean-François Baudin, le procureur de la République, a apporté des précisions.
Oui, il vient d'informer de l'ouverture d'une enquête en flagrance diligentée par la brigade de recherche de Connet pour destruction volontaire par incendie des locaux de la mairie de Point-d'Imier. L'incendie qui a été donc déclaré dans la nuit aux alentours de 3h10 et selon la première constatation, indique le procureur de la République, le sinistre a vraisemblablement démarré dans une pièce où du papier a été placé sur une table pour déclencher le feu. Cette pièce est totalement détruite par les flammes, tandis que d'autres pièces présentent des dégradations moins importantes. Dès le début de la matinée, indique Yves Dupas, les techniciens en identification criminelle ont procédé aux actes de police technique et scientifique. Et l'hypothèse d'un incendie d'origine criminelle est clairement privilégiée par les enquêteurs, écrit Yves Dupas dans ce communiqué. S'agissant des faits d'une gravité certaine commise au préjudice de la commune de Point-d'Imier, de son maire, de toute l'équipe municipale et de leurs administrés, nous allons déployer, écrit Yves Dupas, tous les moyens nécessaires pour identifier les auteurs de ce délit, punir, rappelle-t-il, de la peine de 10 ans d'emprisonnement.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Notre question du jour, êtes-vous soulagé de la levée totale du couvre-feu ou cela vous inquiète-t-il? Si vous êtes soulagé, vous tapez 1. Si vous êtes plutôt inquiet, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. La réponse à notre question d'hier, 88% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS pensent que la crise économique créée par les violences insurrectionnelles va avoir des conséquences sur les festivités de Noël. Ils sont 12% à penser qu'elle n'en aura pas. 17h57, première pause dans ce journal et nous reviendrons notamment sur la prise de commandement de Catherine Merckx au poste de commissaire déléguée en province sud. A tout de suite.
En cas d'urgence, chaque seconde compte. Choisissez la confiance. Choisissez les ambulances Saint-Jacques 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Rapide, fiable, il n'y a pas de jour sans les ambulances Saint-Jacques. Votre sécurité est notre priorité. Téléphone 25 27 27.
C'est la fin d'année et Mobile Nouvelle-Calédonie vous réserve une surprise exceptionnelle. Jusqu'au 15 décembre, Mobile vous offre l'opportunité de remporter un iPhone 16 chaque semaine. Oui, vous avez bien entendu, 4 iPhone 16 à gagner avec un tirage au sort tous les lundis. Pour participer, rien de plus simple. Rendez-vous sur la page Facebook Mobile Nouvelle-Calédonie. Abonnez-vous à notre page et jouez dès maintenant. Ne manquez pas votre chance. Jeu gratuit sans obligation d'achat.
Mobile, energy lives here.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite d'InfoSoir, Léana Colombo.
Catherine Merckx est la nouvelle commissaire déléguée en province sud. Elle a pris officiellement ses fonctions ce matin après un dépôt de gerbe au monument aux morts de La Foix. Et le reportage de Nicolas Legrand qui était présent ce matin à La Foix justement.
À 10h ce matin, autorités civiles et militaires se sont donné rendez-vous sur la place en haut du village pour participer à un dépôt de gerbes. Catherine Merckx a pris officiellement ses fonctions. Elle succède à Grégory Lecru au poste de commissaire délégué pour la province sud. Elle était précédemment sous-préfète en Corrèze et vient tout juste d'arriver en Nouvelle-Calédonie. Un territoire qu'elle découvre donc, mais ce n'est pas son premier poste outre-mer.
Juste avant, j'étais sous-préfète d'Ussel, dans le département de la Corrèze. Précédemment, j'ai fait ma carrière en préfecture essentiellement, mais sur des postes assez diversifiés, puisque j'étais sur des missions de cabinet de préfet, de secrétaire général de sous-préfecture, mais aussi dans le logement, l'hébergement, la mobilité, l'insertion, la formation professionnelle, et dans des départements très divers, puisque j'étais dans des départements montagneux, comme la Haute-Savoie, l'Isère, des départements plus ruraux, comme mon dernier poste à Ussel, départements plus maritimes, avec une grosse métropole, dans le Finistère, à Brest, et en Outre-mer également, pendant 4 ans, en Polynésie française.
C'est dans un contexte particulier que Catherine Merckx arrive en Nouvelle-Calédonie. Et elle aura à cœur auprès du haut-commissaire Louis Lefranc d'accompagner au mieux les collectivités locales.
Ça va être une mission que je sais difficile. Par contre, je l'aborde avec détermination et engagement. Et je crois profondément à l'intérêt général, mais aussi au dialogue, à l'écoute des spécificités locales. Et c'est dans ce sens-là que je souhaite mener au moins au départ ma mission pour bien comprendre le territoire et après travailler avec l'ensemble des acteurs du territoire. C'est de façon assez classique quand un commissaire délégué arrive dans un territoire. C'est toutes les rencontres protocolaires. Donc, j'ai rencontré bien sûr tous les maires de la province sud. J'ai rencontré les responsables coutumiers, les responsables d'administration. Et puis, petit à petit, ça va se faire très vite, de travailler ensemble sur les dossiers. J'ai pas encore de dossier prioritaire que j'ai identifié aujourd'hui. Je préfère vraiment d'abord rencontrer les personnes, voir quelles sont leurs priorités et après on les définira ensemble les priorités.
Catherine Merckx qui n'a évidemment pas attendu sa prise de fonction officielle en tant que commissaire déléguée pour la province sud pour s'imprégner des différentes problématiques que connaît le territoire.
Je suis depuis un petit moment déjà et j'ai eu aussi des informations du haut commissariat, j'ai eu des échanges déjà avec le haut commissaire, avec les membres du corps préfectoral. Donc, même si en métropole on parle beaucoup moins aujourd'hui de la Nouvelle-Calédonie, moi je restais informée avec la presse locale, dont la vôtre notamment, je regardais ce qui se passait sur le territoire.
Une cérémonie qui était aussi l'occasion d'une première prise de contact ce matin. Étaient notamment présents la maire de La Foy, Florence Roland, la maire de Païta, Marilyn D'Arcangelo, le maire de Bouraille, Patrick Roblin, Naya Wateou, élu à la province sud et au congrès, ou encore le général Latil, commandant supérieur des FANC, et Ghislaine Arly, membre du CESE national. Le dépôt de gerbe a été suivi d'une réunion informelle à la résidence de la commissaire déléguée. À La Foy, Nicolas Legrand, RRB.
Remise de médailles ce matin au commissariat central de Nouméa et Jean-François Baudin, le haut commissaire Louis Lefranc a décoré plusieurs policiers.
11 d'entre eux ont été distingués pour actes de courage et de dévouement et 4 policiers se sont vus remettre la médaille de la sécurité intérieure. L'occasion pour le haut commissaire de saluer le travail de la police face aux violences insurrectionnelles, de rendre hommage au commissaire divisionnaire Jean-Marie Cavier et d'évoquer la normalisation de la situation.
Pour ceux qui ont été distingués pour actes de courage et de dévouement, ils ont pris un risque personnel. Il faut savoir le récompenser. C'est le seul moment que l'on a pour récompenser des policiers qui sont engagés comme ça. Donc cette cérémonie était importante, je pense, pour eux, devant leurs collègues. C'est un moment de cohésion important au sein de la police nationale qui est très éprouvée, très sollicitée, jour et nuit. Ils sont toujours très, très sollicités. Et puis, c'est un deuxième message aussi vis-à-vis de leur chef, Jean-Marie Cavier, commissaire général, qui arrive au bout de sa carrière, qui s'est engagé sans compter, de trop, souvent, parfois. Il n'a jamais pris de congé. Toujours été près de ses hommes. C'est un chef comme les policiers aiment. Donc, il fallait marquer son départ. Comme l'a dit son adjointe, le commissaire Anne-Gabrielle Gabelline, c'est la première cérémonie depuis les émeutes. Donc, c'est aussi un marqueur. Ce que j'espère être un retour au calme. Raison pour laquelle j'ai levé le couvre-feu hier. Bien évidemment, j'ai pas fait ça d'initiative. Je l'ai fait en concertation étroite avec les autorités de police et de gendarmerie. Et j'espère que ce couvre-feu qui va être levé l'aide durablement.
Et parmi les récipiendaires, le commandant Nicolas Martoreggio, il a reçu la médaille pour acte de courage et de dévouement et la médaille de la sécurité intérieure.
C'est une récompense individuelle, mais c'est surtout la reconnaissance d'un travail collectif. Je suis bien entouré et je remercie tous ceux qui m'entourent d'ailleurs de me permettre de recevoir ces distinctions. Une médaille pour acte de courage et dévouement et la médaille de la sécurité intérieure. Alors la première, c'était pour une intervention avec un individu armé. Avec les collègues, on a réussi à désarmer. L'intervention a pu se dérouler sans incident par la suite, donc sans aucun blessé et sans usage d'armes.
Acte de courage et de dévouement également pour le brigadier-chef Christian Huetta. Il a été décoré pour avoir sauvé une personne handicapée.
C'est une marque de reconnaissance de la hiérarchie envers notre travail sur le terrain. Donc j'en suis fier. La médaille que j'ai reçue, c'est la médaille d'acte de courage et de dévouement. Ce que j'ai fait pour mériter cette médaille, c'est sauver une personne handicapée et très âgée d'un immeuble à la cité de Pierre-Lanquette, Moravel. Il y avait le feu dans cet immeuble. Le feu se propageait du rez-de-chaussée et ça montait jusqu'au 4e étage. La dame était au 4e étage et on l'a sortie sur sa chaise roulante parce qu'elle ne pouvait pas marcher. Elle était alitée elle, au 4e étage et puis elle était dans la fumée. Donc on l'a descendu avec mes collègues pour la sortir au pied de l'immeuble.
Une cérémonie qui s'est déroulée en présence du commissaire divisionnaire Jean-Marie Cavier et le directeur de la police nationale ne cachait pas son émotion.
C'est une cérémonie importante. Je suis à quelques jours de la fin de mon mandat, donc c'est une cérémonie où il y a beaucoup d'émotions, pour moi en tout cas, où je tenais à marquer ma reconnaissance pour tout le travail qui a été fait par les policiers calédoniens dans cette période difficile. Tout le monde était engagé et tout le monde a répondu présent. Ce qui m'a marqué, c'est justement la motivation, l'engagement, le professionnalisme de toutes les filières qui n'ont jamais défailli. Tout le monde a été présent quand il a fallu, dans ces circonstances extrêmement difficiles dans les mois passés, comme vous le savez.
Le commissaire divisionnaire Jean-Marie Cavier qui va bientôt quitter ses fonctions, même s'il restera sur le territoire. départ. C'est une femme qui va lui succéder à la tête de la police de Nouméa, Marjorie Ghisoli, qui doit arriver dans quelques jours de Montpellier pour prendre ses fonctions de directrice territoriale de la police nationale de Nouvelle-Calédonie.
Et en bref, du changement à la tête du Secours catholique. Après deux mandats de 3 ans à la présidence de l'association catholique, Jean-Yves Lemenant passe la main. Il sera remplacé à partir de vendredi par Marie-Françoise Méhoun. Cette ancienne hôtesse de l'air est la fille de l'ancien responsable de l'USOINC, Gaston Méhoun. Comment défendre ses droits et par quels moyens? Depuis de nombreuses années, les acteurs calédoniens concernés tentent de faciliter l'accès aux droits des citoyens. Et Jean-François Baudin, c'était justement le thème ce midi du magazine Citoyen.
Oui, il existe de plus en plus d'outils pour permettre aux personnes qui le souhaitent de se renseigner sur leurs droits, soit de manière préventive, soit parce qu'elles sont confrontées à des problèmes. Et l'accès aux droits recouvre de nombreux cas de figure différents, a expliqué Maître Philippe Reuter, bâtonnier du barreau de Nouméa.
Évidemment, compte tenu de ce qui s'est passé récemment, on peut imaginer que vous aurez des justiciables qui seront plus axés sur la défense de leurs droits en rapport avec des exactions. Ouais. Mais ce n'est pas limité, hein. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des gens qui peuvent avoir des problèmes, je ne sais pas moi, de voisinage, des problèmes dont ils veulent créer une entreprise, ils ont des difficultés, ils ont des problèmes de droit de la famille, ils ont des problèmes de statut, droit coutumier ou pas. C'est très large et les gens, quand ils ne résident pas dans l'agglo, c'est un peu compliqué de savoir tout simplement quels sont leurs droits. Mais vraiment, ça touche tous les domaines.
Et c'est pour faire face à ces multiples cas de figure qu'a été créé en Nouvelle-Calédonie il y a un peu plus d'un an maintenant le Conseil d'accès aux droits, dont Marie Mathéos est la coordinatrice.
C'est un groupement d'intérêt public, c'est-à-dire que c'est une organisation qui permet à des partenaires publics et privés de mettre en commun des moyens pour la mise en place d'une mission d'intérêt général. Et dans le cas qui nous occupe, la mission d'intérêt général, c'est l'accès aux droits. C'est-à-dire permettre à toute personne d'avoir accès à une information gratuite et fiable sur ses droits et ses obligations. Les acteurs du Conseil de l'accès aux droits, c'est l'État, avec principalement le ministère de la Justice, mais également la Nouvelle-Calédonie. Il y a aussi les associations de maires, les professions juridiques, les avocats, les notaires, les huissiers. Des associations qui font de l'accès aux droits depuis longtemps, c'est la DAVI et l'UFC Que Choisir. Et enfin, la province Sud est également membre du Conseil de l'accès aux droits et on espère que bientôt les deux autres provinces adhéreront également.
Ce Conseil d'accès aux droits doit permettre à chaque justiciable de trouver la bonne structure à laquelle s'adresser pour bénéficier du meilleur accompagnement possible. Florian Leduc est le directeur de la DAVI, l'association pour l'accès aux droits et l'aide aux victimes.
Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a des personnes qui ne sont pas des spécialistes du droit face à nous, parfois qui se posent des questions relativement complexes et qui sont multiples. On peut avoir du droit de la famille qui va se mélanger avec des problèmes de dette, avec des problèmes locatifs, etc. Et parfois, les accompagner, c'est aussi leur permettre d'avoir une vie un petit peu plus simple par la suite. Nous, aujourd'hui, à l'association ADAVI, on dispense de l'information juridique et on n'hésite vraiment pas à renvoyer vers nos partenaires, que peuvent être les avocats, les notaires, les huissiers, qui eux, pour le coup, ont un autre rôle. Ils ne font pas que de l'information, ils vont également faire du conseil.
Et si vous avez besoin de renseignements sur vos droits ou pour toute question que vous vous posez sur le sujet, vous pouvez consulter le site du Conseil d'accès aux droits à l'adresse cad.nc.
Un magazine citoyen à retrouver en audio, en intégralité sur notre site internet rrb.nc. Et notez ce rendez-vous d'antenne. Cette année, pas de Téléthon en Nouvelle-Calédonie. Quelques animations sont maintenues, mais l'essentiel des événements a été annulé. Une décision dont nous parlerons demain matin avec Robert Racapé, le coordonnateur du Téléthon en Nouvelle-Calédonie, sera en effet notre invité du matin à 7h30. 18h08, dernière pause dans ce journal avant de voir tout le reste de l'actualité.
Au cœur de Noël, une initiative de Radio Rythme Bleu parrainée par l'OPT avec le concours de la Croix-Rouge, de la Société Saint-Vincent-de-Paul, du Secours catholique et de la Table ronde française. Au cœur de Noël, c'est la part du cœur, la vôtre, la nôtre, pour que les enfants ne soient pas oubliés au soir de Noël. Au cœur de Noël, une belle histoire qui s'écrit grâce à vous. Tous les jours, de 7h30 à 19h, venez déposer à la radio, aux 4 rue de Sébastopol, vos cadeaux et jouets pour les enfants jusqu'à l'âge de 16 ans. Au cœur de Noël, avec RRB.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixon à Magenta, à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
La Calédonienne des Eaux vous facilite la vie. Payez directement vos factures en ligne ou demandez le prélèvement automatique. C'est simple, c'est rapide et surtout écologique. Rendez-vous au plus vite sur le site www.cde.nc. Pour vous comme pour nous sur RRB, il n'y a pas de jour sans la Calédonienne des Eaux. RRB, première radio d'information.
La suite d'info soir, Léana Colombo.
Le vice-premier ministre de Nouvelle-Zélande, Winston Peters, est arrivé en Nouvelle-Calédonie pour une visite de 48 heures. Son avion s'est posé à 17 heures à Tontuta, où les honneurs militaires lui ont été rendus. Au cours de son séjour, Winston Peters rencontrera notamment les responsables institutionnels et terminera son séjour jeudi par une cérémonie d'hommage au cimetière néo-zélandais. Et à propos de la Nouvelle-Zélande, plusieurs cas de grippe aviaire ont été détectés dans un élevage de poules pondeuses, ce qui va se traduire par la destruction de 80 000 volatiles. C'est la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Un sous-type hautement pathogène de grippe aviaire, nommé H7N6, a été détecté dans un poulailler industriel pour poules pondeuses de la province d'Otago, dans la région méridionale de l'île du Sud de la Nouvelle-Zélande. L'élevage en question a immédiatement été placé en quarantaine absolue. Le directeur général du ministère kiwi des industries primaires, Ray Smith, a annoncé que suite à cette détection, je cite, « le dépeuplement des poulaillers où vivaient les oiseaux infectés va être entrepris. Ce dépeuplement va se traduire par la destruction de 80 000 poules pondeuses sur les 160 000 que comptait l'élevage. Ce n'est pas tout à fait inattendu, mais ça reste néanmoins très triste à concéder le fonctionnaire. » À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Au cœur de Noël avec l'OPT. Pour que Noël soit une fête pour tous.
Et vous êtes formidables. Nous avons lancé hier notre opération au cœur de Noël et vous avez déjà répondu en nombre à notre appel. Vous le savez, cette année, nous recentrons l'opération sur les cadeaux et les jouets pour enfants jusqu'à 16 ans. Et à peine avons-nous fait appel à votre générosité que certains d'entre vous y ont répondu, comme Caroline qui est passée ce matin.
Je trouve que cette année, ça résonne un peu particulièrement et vous aviez ciblé du coup les enfants de famille qui avaient été un peu victimes des exactions. Du coup, voilà, moi ça m'a touchée et à défaut d'avoir des enfants à choyer, j'ai d'autres quoi. Il y a deux kits créatifs pour faire de la peinture numéro, donc le petit dessin est déjà fait, il faut suivre les numéros et mettre la bonne couleur et ça fait apparaître un dessin. Et deux petites peluches Kadimbo. Oui, pour des petits, pour des jeunes. Bah, j'espère que la Calédonie va se relever de tout ça et que les enfants seront épargnés et passeront de belles fêtes.
Et vous pouvez venir déposer vos jouets et cadeaux pour les enfants à RRB au 4 rue de Sébastopol. Vous pouvez le faire de 7h30 à 19h et en profiter pour rencontrer les équipes de la radio. Vous pouvez aussi les déposer au magasin Petit Dôme, route de Lansvata, qui nous accompagne depuis le début. 18h13 et c'est avec un petit soupçon de magie que nous passons à la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et la météo, c'est avec vous, Nicolas.
Alors, un petit coup de baguette et hop, on a la météo. Cette nuit, la façade de l'ouest bénéficiera d'un ciel bien étoilé. Sur les autres régions, des nuages circuleront et donneront de faibles ondées en fin de nuit. L'Alizée soufflera d'est-sud-est entre 10 et 15 nœuds. Sur l'ouest, il deviendra variable faible et les températures minimales seront proches des normales de saison, entre 19 et 24 degrés localement jusqu'à 17 degrés. Ce sera sur l'ouest. Demain matin, la matinée sera généralement bien ensoleillée, bien que parfois voilée en altitude, une ondée n'est pas exclue sur les loyautés et l'est. Le vent de secteur sud-est soufflera entre 10 et 15 nœuds en général. Sur l'ouest, les brises se renforceront progressivement.